Chers amis, bienvenue à Aujourd'hui sa parole, le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Nous sommes à notre troisième épisode de la lecture en continu des Actes des Apôtres au fil de ce que la liturgie nous propose, notamment pendant les messes de semaine. Je voudrais revenir avant d'aller au point où nous en sommes, au début. Vous vous rappelez que dans le premier épisode, je vous avais invité, même si on était déjà rendu au chapitre 8 dans la liturgie, de lire attentivement et de méditer, de vous approprier les deux premiers chapitres des Actes des Apôtres, qui sont comme l'ADN de tout le reste, le concentré qui va être délié après, ou pas dilué, mais délai. Ouais, c'est ça, qui va être enrichi, se déployer dans les autres chapitres. Et donc, dans ces deux premiers chapitres, rappelez-vous qu'au commencement, donc Jésus dit, avant de monter au ciel, rappelez-vous ce que je vous ai dit, Jean-Baptiste vous a baptisé avec de l'eau, moi c'est dans l'Esprit Saint que je vous baptiserai bientôt. Et un peu plus loin, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, vous serez mes témoins dans tout Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Au moment de la Pentecôte, on dit que tous, au chapitre 2, que tous furent remplis de l'Esprit Saint. Et au terme de sa prédication, Saint Pierre dit « Repentez-vous de vos péchés, faites-vous baptiser et recevez l'Esprit Saint. » Donc, on voit qu'il y a comme une finalité dans toute cette démarche, dans tout ce récit, c'est d'être rempli de l'Esprit Saint. Et c'est ça qui va faire la vie de l'Église, c'est ça qui va faire la vie chrétienne, Paul le dit dans l'Épître aux Galates, puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir, cet Esprit qui est aussi l'âme de l'Église. Mais on pourrait se dire, mais qui est l'Esprit Saint? Je lisais autrefois un auteur qui disait, au fond, l'Esprit Saint, c'est un peu la plus, entre guillemets, divine des trois personnes de la Trinité. Non pas qu'évidemment elles sont égales en divinité, mais on dirait la plus mystique des trois personnes, la plus insaisissable. Pourquoi? Bien parce que la première, qui est le Père, eh bien, pour nous, évidemment, ça a une résonance humaine. C'est justement que Dieu est Père et que nous avons une connaissance de la paternité, nous qui sommes des êtres humains. C'est la même chose pour le Fils, et c'est encore plus palpable puisqu'il s'est fait réellement humain et que Saint Jean dit dans sa première lettre que nous avons contemplé ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons entendu, c'est cette parole de vie qui était auprès du Père et qui s'est manifestée. Mais quand on arrive à l'Esprit Saint, bien, c'est très abstrait. Esprit et Saint. Déjà, la notion d'esprit, pour nous, peut être assez vague. Qu'est-ce que c'est un esprit? Bien, souvent, on comprend par opposition à la matière. On comprend que c'est quelque chose qui est immatériel. Mais au fond, un esprit, on en a un esprit. On a ça commun avec Dieu. Un esprit, au fond, c'est une intelligence et une volonté. Mais nous, nous avons expérience de l'esprit dans une chair humaine, avec un cerveau, avec un corps, etc. Mais de penser pur esprit, c'est quelque chose de très difficile pour nous. J'aimerais prendre une métaphore, deux métaphores qui sont à mon avis assez suggestives, et c'est Jésus lui-même qui utilise la première quand il dit que l'esprit, nul ne sait ni d'où il vient ni où il va, mais tu peux entendre sa voix. Ainsi en est-il de quiconque vit de l'esprit. J'en parlais aux petits-enfants à la messe des enfants, que ben si on croit que ce que l'on voit, ben on ne peut pas croire, par exemple, que le vent existe, parce que personne n'a jamais vu le vent. Donc, on sait qu'il existe parce qu'il fait bouger les feuilles des arbres, fait bouger les nuages. On peut le sentir sur notre corps. Voilà. Et pourtant, c'est lui qui fait tout bouger cela, mais on ne le voit pas. Une analogie encore plus suggestive, je trouve, c'est celle de la lumière. La lumière est un mystère physique et scientifique. La lumière, c'est cela par quoi on voit tout, sans laquelle on ne voit rien. Or, la lumière est à peu près inobservable. Il y a encore un débat scientifique. Est-ce que la lumière, c'est des photons? Est-ce que la lumière, c'est des ondes? Ça dépend, ce sont des hypothèses pour essayer d'observer la lumière. Mais la lumière, reste assez insaisissable, étonnant. Sans elle, on ne voit rien, mais on ne la voit pas. Eh bien, c'est un peu l'analogie que je voudrais faire avec le livre des Actes des Apôtres. On ne voit pas l'Esprit-Saint, mais c'est lui qui agit, c'est lui qui fait bouger, c'est lui qui éclaire tout. Mais l'Esprit-Saint, dans l'histoire de la Révélation, c'est le petit dernier, c'est lui qui arrive après le Père et le Fils. Voici ce que nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique à l'article numéro 684, une citation d'un grand mystique, le Saint Grégoire de Nazianze, qui écrit donc « L'Ancien Testament proclamait manifestement le Père, le Fils plus obscurément. Le Nouveau Testament a manifesté le Fils et a fait entrevoir la divinité de l'Esprit. Maintenant, l'Esprit a droit de citer parmi nous et nous accorde une vision plus claire de lui-même. » Donc, on voit un petit peu la progression, la pédagogie divine. On pourrait dire que le Père a envoyé le Fils et que le Fils a envoyé l'Esprit. Ça s'est passé comme ça historiquement. Mais spirituellement, en fait, ce qui se produit, c'est l'inverse. C'est l'Esprit qui nous permet de reconnaître le Fils, et c'est dans le Fils que nous voyons le Père. En effet, saint Paul dit au début de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, « Nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a reçu l'Esprit-Saint. » Donc, hors de l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas adorer ou adhérer à Jésus-Christ. Rappelez-vous la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, au chapitre 16 de saint Matthieu, où Jésus pose la question à ses apôtres « Pour vous, qui suis-je ? » Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répond « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Donc implicitement, c'est parce que tu as eu une grâce de l'Esprit-Saint. Donc, mais cet Esprit-Saint, Pierre ne l'a pas encore reçu en plénitude, il commence seulement à comprendre le mystère de Jésus. Alors, l'Esprit-Saint produit au fond un effet rétroactif. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, on y revient souvent, Luc 24, qui affirme à la fin de leur rencontre avec Jésus, qui a disparu d'ailleurs à leurs yeux, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous quand il nous expliquait toutes les Écritures ?» C'est-à-dire que ils vont relire les Écritures dans le feu de l'Esprit-Saint que Jésus ressuscité leur a communiqué. Mais l'exemple le plus frappant de cette rétroactivité, si on peut dire, de l'Esprit-Saint, c'est la prédication, encore une fois, on y revient, de Pierre le jour de la Pentecôte, où il va relire tous les événements qui viennent de se passer dans la lumière de l'Esprit-Saint. Quelques jours avant la Pentecôte, il avait dit « Est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël ?» Donc, ça veut dire qu'il n'a rien compris de l'aspect surnaturel du royaume de Jésus. Mais, après la Pentecôte, le voilà debout et il dit « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. » Donc, et ensuite, il va citer des passages des prophètes, citer des psaumes. Il va relire, donc rétroactivement, reprendre toute la révélation biblique, c'est ce que l'Église fait depuis 20 siècles, dans la lumière de l'Esprit-Saint. Et Jésus l'avait dit, « L'Esprit de vérité que j'enverrai d'auprès du Père vous conduira à la vérité tout entière. » Alors, nous sommes toujours dans cette lecture des Actes des Apôtres. La liturgie nous a conduit à la troisième grande partie. Vous rappelez ces quatre parties des Actes des Apôtres. La première qui nous présente au fond la fondation de l'Église à Jérusalem, sa croissance, qui nous décrit aussi la vie de cette communauté. Ensuite, dans la deuxième, le début des persécutions, la dispersion, mais aussi l'élan missionnaire de l'Église. Ensuite, la troisième qui nous décrit essentiellement l'entreprise missionnaire de Paul avant et après le concile de Jérusalem, et la quatrième qui est la captivité de Paul à Jérusalem et puis à Rome. Au centre de cet écrin, si on peut dire, on a la perle qui est ce concile de Jérusalem, ça s'appelait pas comme ça, on en a parlé dans notre dernier podcast, c'est le moment où l'Église devient, on pourrait dire, officiellement catholique, où elle affirme que, comme dit Pierre, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. vous comme nous-mêmes, c'est-à-dire vous les Juifs comme, pardon, vous les païens comme nous les chrétiens. Avec le chapitre 18, on voit le dernier voyage missionnaire de Paul, dont le point d'orgue est Éphèse. Il va passer un long moment, il va donner d'ailleurs, quand il écrira aux Éphésiens, un de ses chefs-d'œuvre, peut-être le sommet de sa théologie, l'épître aux Éphésiens. Je voudrais revenir un petit peu en arrière, dans le deuxième voyage de Paul, d'abord son passage à Athènes, passage assez bref et plus ou moins réussi au chapitre 17, verset 22. Donc, il va prêcher devant l'Aréopage. L'Aréopage, c'était le tribunal d'Athènes. Athènes était la capitale intellectuelle de l'Empire romain, malgré que l'Empire était dominé par Rome. Il restait que les grands intellectuels, et ça va durer plusieurs siècles encore, venaient se former là. Et donc, cet Aréopage avait cette réputation de sagesse. Or, Paul s'adresse à eux en parlant du Dieu inconnu, vous connaissez le discours, et puis en fait, il est congédié, surtout quand il parle de la résurrection des morts. Et je vous inviterai à faire un parallèle intéressant entre cet événement et ce que Paul dit quand il écrira aux Corinthiens, beaucoup plus tard, à cette même communauté qu'il habite, c'est-à-dire qu'il visitera juste après Athènes. Et après ce choc, si on peut dire, avec la sagesse païenne dans toute sa splendeur à Athènes, voici ce qu'il écrit donc dans cette première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisqu'en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas. Voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin que celui qui veut être orgueilleux, qu'il mette son orgueil dans le Seigneur. Voyez comme c'est frappant ce parallèle donc entre ce discours d'Athènes qui est un échec devant l'intelligentsia de l'époque et cette maturation au fond théologique de Paul qui va relire l'événement en écrivant donc à ses amis de Corinthe où il a passé un an et demi à prêcher la parole presque exclusivement à temps plein. Donc, vous voyez, on peut faire des parallèles entre le récit historique des Actes des Apôtres et les lettres que Paul écrit aux différentes églises qu'il a visitées. Je voudrais faire un autre parallèle très intéressant. C'est celui de cette parole que Paul reçoit au moment où il est très éprouvé justement à Corinthe. C'est une mission qui est difficile et Jésus lui parle dans un songe. Voilà ce que nous lisons au chapitre 18, verset 9. Une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour toi un peuple nombreux. » Vous voyez, c'est ce rôle très important de la consolation dans l'épreuve, parce que Paul se heurte à Corinthe à une vive résistance de la part des Juifs et qui sera parfois violente dans d'autres lieux, mais Dieu apporte toujours la consolation. Et voilà ce que Paul écrit maintenant aux Corinthiens dans la deuxième lettre aux Corinthiens et qui peut être un écho de cet événement, plus simplement un écho de toute son expérience spirituelle. Voilà ce qu'il dit donc dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3 et suivant. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Donc c'est une parole très importante. Personnellement, moi j'y reviens souvent dans les moments difficiles, et combien de fois j'ai éprouvé cette vérité, hein, que Dieu nous réconforte, nous console dans toutes nos épreuves. Parce que ce qu'il nous demande est exigeant et on ne peut pas le réaliser sans sa grâce. C'est ce qu'il dit aussi dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, Paul le dit, « Ce que je le suis par la grâce de Dieu. » Alors c'est un beau moment d'encouragement pour nous. Et maintenant, je vais vous laisser au seuil de la quatrième partie où Paul donc va retourner à Jérusalem. Et c'est dans le but de d'aller à Rome. Il le dit au chapitre 19, verset 21, « Il me faut encore voir Rome. » Et je trouve cela très, très intéressant de penser que bien Paul avait ce désir. Il a été amené à Rome un peu de force, à cause du procès qu'on lui a fait, qu'il a demandé, vous allez le voir, de paraître devant l'empereur. Mais Paul avait ce désir, et quand vous lisez encore un parallèle entre les actes des apôtres et les lettres de Paul, si vous lisez au début de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 8, voici ce que nous lisons. Donc, aux Romains, « Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, puisque la nouvelle de votre foi se répand dans le monde entier. » Car Dieu m'en est témoin, lui à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'évangile de son Fils. Je fais sans cesse mémoire de vous, lorsqu'à tout moment dans mes prières, je demande que par la volonté de Dieu, l'occasion me soit bientôt donnée de venir enfin chez vous. J'ai en effet un très vif désir de vous voir, pour vous communiquer l'un ou l'autre don de l'Esprit, afin que vous en soyez fortifiés. » Vous voyez? Donc, Paul avait ce désir d'aller voir ses frères. C'est pas lui qui a fondé l'église de Rome, mais il veut leur communiquer quelques dons de l'esprit, quelques charismes. Et nous en revenons au tout début où Jésus nous a dit, donc, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint. Vous serez mes témoins dans tout Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Bonne lecture.